épique, comique, parfois gore et même kawaii. Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Doruido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hocquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci d'écouter France Culture et le premier épisode de Questions du soir de l'année. Il est 19h. Le journal est signé Aurélie Kiefer.
D'après la police, il était déterminé à faire un carnage. Cette nuit, un homme au volant d'une voiture a foncé dans la foule qui fêtait le Nouvel An dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Le bilan est d'au moins 10 morts et 35 blessés. L'auteur a été tué par les forces de l'ordre, Étienne Monin.
Sur l'une des nombreuses photos qui circulent déjà, on voit l'arme du crime, un pick-up blanc encastré dans un engin élévateur. Il y a 4 impacts de balles sur la lunette arrière, la porte passager est ouverte. Il est entouré par un important dispositif de sécurité. D'après la police, la voiture a contourné les barrières de sécurité pour s'engouffrer dans Bourbon Street. D'après un témoin cité par CNN, les barrières ou les plots en acier ne fermaient pas cette route. Le dispositif était beaucoup plus léger. Le pick-up roulait très vite, d'après la police, il a foncé sur la foule. L'intentionnalité est avérée, dit la chef de la police. L'auteur a cherché à écraser le plus de monde possible, puis il a blessé par balle 2 policiers avant d'être abattu. Le FBI enquête sur un possible acte terroriste. L'identité de l'auteur n'a pas été communiquée. Des explosifs artisanaux ont été retrouvés sur la scène de crime. Joe Biden a été informé des derniers développements. Donald Trump, dans sa première déclaration, semble faire un lien entre cette affaire et l'immigration.
Rien ne justifie la violence, quelle qu'elle soit, et nous ne tolérerons aucune attaque contre les populations de notre pays, déclare pour sa part le président démocrate Joe Biden. 984 véhicules incendiés et 420 interpellations, dont 310 sont débouchés sur des gardes à vue. C'est le bilan de la nuit du réveillon en France, des chiffres en augmentation par rapport à 2023. Le ministère de l'Intérieur signale aussi plusieurs incidents graves liés à l'utilisation de mortiers. Israël menace d'intensifier encore ses frappes sur Gaza. Après plusieurs tirs de roquettes sur Israël ces derniers jours, le ministre de la Défense, Israël Katz, déclare « Si le Hamas ne permet pas prochainement la libération des otages israéliens et continue à tirer sur la population israélienne, il s'expose à des coups d'une intensité que Gaza n'a plus vue depuis longtemps. Aujourd'hui, au moins 25 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. » Les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine ont définitivement cessé après l'expiration d'un contrat qui avait été maintenu jusqu'à présent malgré l'invasion du pays par la Russie. Cet arrêt qui concerne près du tiers des livraisons totales de gaz russe à l'Europe inquiète plusieurs pays de l'Est européen, notamment la Moldavie, particulièrement vulnérable, et la Slovaquie. Enfin, une enquête est ouverte au Kenya après la découverte d'un objet métallique tombé dans un village du sud du pays, un anneau métallique d'environ 2,5 mètres de diamètre et pesant 500 kilos. Ce pourrait être un anneau de séparation d'un lanceur de fusée. Des découvertes de débris spatiaux construits par l'homme se sont déjà produites, comme en 2022, lorsqu'une partie d'une capsule de SpaceX avait atterri sur une ferme en Australie. Tout de suite sur France Culture, c'est la seconde partie de Questions du soir, Quentin Lafay.
Merci Aurélie Kiefer, seconde partie de Questions du soir consacrée comme chaque soir à l'actualité des idées et de la recherche. Et ce soir, on va s'intéresser, Aurélie, pour cette première émission de l'année aux sentiments amoureux.
France Culture, Questions du soir, Quentin Lafay.
Je le disais, oui, pour cette première émission de l'année, nous avons fait le choix de nous porter vers un sentiment positif, le sentiment amoureux, et plus précisément vers l'amour naissant. Selon Francesco Alberoni, l'amour naissant est un événement qui s'impose à nous. Il restructure notre univers et ses lois, abolit notre passé, reconditionne notre présent. C'est une révolution intime, révolution au sens second du terme. L'être amoureux ne fait pas un tour sur lui-même, il devient autre, il se métamorphose, ou plutôt s'anamorphose. Fin de citation. Mais le sentiment amoureux, lui, n'a pas toujours existé. Il apparaît au XVIIIe siècle sous la plume de Marivaux, succédante à la passion. Les Lumières lui préfèrent le charme du coup de foudre et de l'agnonamento. Alors quels sont ses fondements? Quels sont les fondements de ce sentiment que l'on se figure naturel et éternel? En quoi fait-il de l'amour une surprise? Pour tenter de comprendre tout cela, une invitée ce soir, Élodie Ripoll. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence au département d'humanité numérique de l'université de Trèves et vous avez co-dirigé avec Catherine Galouette cet ouvrage intitulé « Tomber en amour, enquête sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle », un ouvrage qui paraîtra demain aux éditions Classic Garnier. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
Que vous êtes jolie.
Vous êtes bien obligeant.
Oh, pourquoi je dis la vérité?
Vous êtes bien jolie aussi, vous.
Tant mieux. Où demeurez-vous? Je vous irai voir.
Je demeure tout près. Mais il ne faut pas venir. Il vaut mieux nous voir toujours ici. Parce qu'il y a un berger qui m'aime. Il serait jaloux et nous suivrait.
Ce berger-là vous aime?
Oui.
Mais voyez donc cet impertinent. Je ne l'aime pas, moi. Est-ce que vous l'aimez, vous?
Non. On n'est jamais pu venir à bout.
C'est bien fait. Il ne faut aimer personne d'autre que nous deux. Voyez si vous le pouvez.
Oh, de reste, je ne trouve rien de si aisé.
Tout de bon.
Oh, je ne mens jamais. Mais où demeurez-vous aussi?
Dans cette grande maison.
Quoi? Je la fais?
Oui.
J'ai toujours eu du malheur.
Mais qu'avez-vous, ma chère amie?
C'est que cette fée est plus belle que moi. Et j'ai peur que notre amitié ne tienne pas.
Oh, j'aimerais mieux mourir.
Vous m'aimerez donc toujours?
Tant que je serai en vie.
Ce serait bien dommage de me tromper, car je suis si simple.
Un extrait d'Arlequin, poli par l'amour, signé Marivaux, évidemment. Élodie Ripoll, qu'est-ce que Marivaux invente en matière de sentiments amoureux, d'écriture de sentiments amoureux, et surtout, qu'est-ce qu'il invente en matière de complexité de ce sentiment?
Alors, ce qui est très beau dans l'exemple que vous avez montré, c'est qu'on voit vraiment l'amour naître sous les yeux des spectateurs. Donc, avec Arlequin et le personnage féminin. Et alors, ce qui est nouveau, c'est déjà de le montrer au théâtre, puisqu'on a généralement eu avant un théâtre qui était plutôt basé sur un texte. Et avec Marivaux, le jeu va, dans la tradition du théâtre italien, plutôt reposer sur le jeu des acteurs que sur le texte. Le théâtre italien, il avait un canevas, il y avait une grande place laissée à l'improvisation. Et là, donc, on va avoir des dialogues finalement assez simples, mais beaucoup d'espace pour le jeu, pour l'interprétation. Et on peut voir ces deux jeunes gens découvrir le sentiment amoureux sous nos yeux. Alors, c'est très nouveau parce qu'auparavant, les personnages de théâtre étaient déjà amoureux. C'était le cas chez Molière. Et puis, ils étaient dans l'ordre de la... Hors Molière, donc si on était plutôt dans le théâtre chez Racine ou chez Corneille, on était plutôt dans l'ordre de la passion. Donc, ils n'étaient pas aussi positif que le sentiment. On arrive au XVIIIe siècle avec cette notion de sentiment qui est nouvelle, qui est bien plus positive et qui ne représente pas une menace pour la société ou pour l'ordre établi.
Il faut nous expliquer justement, Élodie Ripoll, cette différence fondamentale, la différence que vous faites, qui est un peu le fil rouge de l'ouvrage que vous co-dirigez, entre la passion d'un côté, qui précède le XVIIe siècle, et le sentiment amoureux. La passion, c'est presque ce qui vient d'en haut, ce qui est absolument absolu, ce qui ne laisse aucun doute à celles et ceux qu'elle traverse, alors que le sentiment amoureux naît, surgit avec beaucoup plus de complexité, de doute, de terreur, au fin fond de l'intimité.
Oui, et de troubles, surtout,
et de troubles.
Parce qu'on ne sait pas... quel mot mettre sur ce sentiment nouveau qui s'empare des personnages qui sont généralement très jeunes. Donc ils découvrent vraiment... Là, les personnages d'Arlequin, bon, c'est un personnage typique, mais en général, les héros de Marivaux ont plutôt 16-17 ans, donc ils sont très très jeunes. Mmh. Et c'est vrai que la passion, au XVIIe siècle, elle arrivait vraiment d'en haut. C'est la malédiction de Vénus pour Phèdre, donc c'est vraiment quelque chose qui est imposé et qui ne laisse aucune marge de manœuvre au personnage. Alors que chez Marivaux et chez les autres... Enfin, à partir du XVIIIe siècle, le sentiment... alors déjà, c'est un mot nouveau. On a des mots nouveaux qui apparaissent au XVIIIe siècle. On va parler de sensible, sentimental. On a tout un ensemble de termes qui arrivent. Et la particularité, c'est qu'ils vont lier, finalement, l'expression du sentiment, de l'émotion, au corps, au ressenti du corps. Donc, c'est là d'où vient tomber amoureux, comme tomber malade, le coup de foudre qui va s'imposer... à la fin qui va être lexicalisé à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est donc ce lien entre le corps et les sentiments qui n'était pas là auparavant. On avait cette dualité, cette séparation de l'âme et du corps, alors que là, finalement, tout est lié, l'esprit et le corps. Et donc, finalement, c'est l'influence de l'empirisme qui cause cela.
C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui permet le surgissement de cette nouvelle notion, de cette nouvelle représentation au sein de la littérature du sentiment amoureux? Comment la société transforme-t-elle elle-même le sentiment amoureux?
Alors ça vient finalement de la fin du XVIIe siècle avec l'héritage philosophique de Locke, donc de John Locke, qui fonde l'empirisme. Alors effectivement, la notion vient des sciences naturelles, mais cette idée que la connaissance née de l'expérience va finalement toucher d'autres domaines de la vie et effectivement aussi la vie privée des individus. Et donc, si l'expérience personnelle mène à la connaissance, évidemment, ça revalorise le statut de l'individu, de son vécu, et lui permet de, finalement, de se nourrir de cette expérience qu'il fait. Et petit à petit, on en vient justement à s'interroger sur ce que l'on éprouve. Et les personnages du XVIIIe siècle qui tombent amoureux vont essayer justement de décrire cette sensation, ce trouble qu'ils éprouvent, cette nouveauté qu'ils ne savent pas décrire et qui les perturbe vraiment, qui les fait trembler, qui les fait rougir.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction apparente, du moins, entre le fait que le XVIIIe siècle soit souvent considéré comme le grand siècle du libertinage d'un côté, et dans le même temps, on voit surgir un intérêt particulier pour ce sentiment un peu honteux, absolument troublant, qu'est le sentiment amoureux ?
Ah oui, oui, alors ces deux tendances cohabitent, pour ainsi dire, parce qu'on a effectivement le grand siècle du libertinage, avec cet amour qui est le plaisir, qu'on associe d'emblée au meurtre de Philippe d'Orléans, le régent qui est dit le roué, donc tout cet héritage-là qui va partir de passer par Crébillon, Laclos et Sade. Mais en fait, on a à côté un amour qui est beaucoup plus positif, qui est basé sur une tendresse, sur quelque chose de très différent, en fait. Et ça arrive vraiment au XVIIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette revalorisation de l'amour en général. Ce n'est pas que le sentiment amoureux. Et je vous avais dit que ça restructurait, on pouvait, par l'amour, structurer les rapports sociaux et l'ordre. Et en fait, on le voit si on regarde l'encyclopédie. Donc, il y a plusieurs articles d'amour. Alors, il y a galanterie, amour des sexes, bon. Mais il y a aussi d'autres formes d'amour qui sont très positives et toujours liées à la structure de la famille et à la tendresse. Donc c'est vraiment quand même une époque qui réinvente les sentiments dans leur ensemble et le sentiment amoureux. Parce que les autres sentiments sont calqués sur le surgissement du sentiment amoureux. On a vraiment ce lien qui est très marqué.
Est-ce que lorsqu'on parle ensemble et dans votre livre du sentiment amoureux, est-ce qu'on évoque uniquement le sentiment amoureux entre deux êtres qui se rencontrent ? On parle aussi de l'amour filial, de l'amour entre un père et son fils, entre une fille et sa mère, ou c'est quelque chose de totalement différent, ce lien-là qui les unit ?
Alors ça dépend. Ça dépend du moment de la rencontre et ça dépend si ce sont des affinités électives ou si ce sont les liens du sang. Dans notre volume, alors évidemment c'est la rencontre amoureuse qui occupe le devant de la scène. L'amitié peut parfois, parce que l'amitié se construit aussi selon les mêmes schémas, mais lorsqu'on a une rencontre à un moment donné entre deux êtres qui pourraient être unis par un autre lien de parenté, donc l'exemple canonique c'est vraiment la vie de Marianne et Marianne qui rencontre Madame de Miran, là on a exactement un calque de la scène de la rencontre avec la mère, avec le fils finalement, donc Marianne, à un échange de regards avec Madame de Miran, nos yeux se rencontrèrent et ce sont deux âmes qui se rencontrent et qui vont s'aimer.
Je voudrais qu'on plonge avec vous, puisque vous en êtes spécialiste, dans l'œuvre de Marivaux, en écoutant un extrait du jeu de l'amour et du hasard.
Je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons d'entretien, venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense.
Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi.
Aïe, je me fâcherai, tu m'impatientes. Encore une fois, laisse-la ton amour.
Quitte donc ta figure.
À la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir. Faudra-t-il que je te quitte ? Je devrais déjà l'avoir fait.
Qu'est-ce que cette scène, qu'est-ce que d'ailleurs cette pièce au-delà l'amour du jeu et du hasard vous évoque, Élodie Ripoll, dans la représentation, là aussi, du sentiment amoureux ? Est-ce que cette pièce marque une rupture ?
Ah oui, oui. Alors déjà, c'est la pièce où on voit où la scène de première vue, puisqu'on l'appelle comme ça, dure le plus longtemps, puisqu'elle est entre plusieurs scènes. Et puis on a deux jeunes gens qui... Alors, il faut peut-être rappeler aux auditeurs l'intrigue. On a un homme, donc Monsieur Orgon, qui veut marier sa fille, Sylvia, à un Dorante. Donc les parents ont organisé cette union et les deux jeunes gens vont se rencontrer. Donc ils sont très jeunes, ils ont 16-17 ans. Mais Sylvia a une idée. Et elle décide de se déguiser en sa soubrette pour pouvoir rencontrer Dorante et l'examiner à son aise sans prendre de risque. Le problème, c'est que Dorante a eu la même idée. Donc, il s'est déguisé aussi en son valet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, généralement, lorsque les maîtres se mariaient, les domestiques se mariaient aussi. Donc on a un parallèle qui est assez intéressant. Et du coup, ces deux jeunes gens, donc de famille bourgeoise, qui sont fixés à des conventions, qui doivent agir suivant un comportement bien normé, sont du coup plus libres parce qu'ils ont les vêtements de domestique. Donc ils peuvent être un peu plus directs et ils peuvent du coup s'affranchir de certaines normes.
Et en quoi ça cristallise, si je puis dire, le passage de l'amour-passion à l'amour-sentiment, pour reprendre vos termes ?
Eh bien, on a des personnages, alors surtout le personnage féminin, parce que chez Marivaux, ce sont les personnages féminins qui sont au centre. Ils ont plus d'espace pour parler de leurs émotions, pour montrer leurs émotions. Donc là, on est au théâtre, donc il y a des personnages de confidents, il y a des apartés. Et donc on peut finalement avoir accès à une intériorité qu'on n'avait pas nécessairement.
Marivaux écrit lui-même ce nouveau roman d'amour, propose une nouvelle carte du tendre dans laquelle respect mutuel, égalité et réciprocité forment la base des rapports entre deux êtres qui s'aiment. Fin de citation. C'est aussi cela qui est totalement renouvelé dans Marivaux. C'est aussi une vision du couple, de la relation, de la rencontre entre deux êtres qui sont portés sur un pied d'égalité.
Oui, et c'est très nouveau ça chez Marivaux. Vraiment. Alors, on le voit de toute façon, si on a cet idéal du mariage d'amour qui arrive au XVIIIe siècle, et donc ça passe forcément par la revalorisation du sentiment féminin, mais personne ne va aussi loin que Marivaux.
Est-ce que Marivaux mène ce travail d'une façon consciente, ou au fond, il suit simplement les mœurs de son temps ?
Non, ça doit être conscient, parce qu'il est quand même assez... il est très différent. Si on regarde, par exemple, deux romans qui sont à peu près de la même époque, donc La vie de Marianne et Manon Lescaut de l'abbé Prévost, on n'a absolument pas le même regard sur le personnage féminin. Puisque dans Manon Lescaut, on a la perspective de Desgrieux, le personnage masculin, mais on n'a jamais les mots de Manon, on n'a absolument aucun accès à son intériorité, et tout passe par le prisme de Desgrieux qui raconte ce qu'il veut raconter. Alors que Marianne va éclairer, puisqu'elle s'adresse à une amie, elle va éclairer chaque étape de sa conscience, chaque mouvement de son âme qui va l'occuper. Donc on a vraiment accès à une intériorité qu'on va avoir dans d'autres romans mémoires, bien sûr, mais qui est chez Marivaux aussi une constante de son œuvre. C'est vraiment...
Est-ce que l'une des idées fondamentales de Marivaux, c'est qu'il ne peut y avoir d'amour sans égalité entre les êtres qui composent la relation ? Que fait-il, si je vais au bout de ma pensée, que fait-il des relations de pouvoir dans un couple qui existe fondamentalement ? On le sait très bien.
Alors, c'est un peu mis de côté dans ces pièces, puisqu'il se centre surtout sur la naissance de l'amour. Donc, c'est vraiment comment accepter soi-même qu'on est amoureux et donc qu'on a besoin d'un autre être.
Mais là aussi, dans la naissance de l'amour, il y a souvent une inégalité entre deux êtres qui se rencontrent.
C'est profondément endogamique, oui. Donc là, il y a déjà cette difficulté-là qui échappe, sauf dans Le paysan parvenu, par exemple, ou partiellement dans La vie de Marianne, où on a un décalage social, mais finalement, c'est l'individu, par son mérite personnel, mérite d'intégrer le monde... des nobles, finalement. Donc, il y a toujours quelque chose qui se joue là. Mais dans ces romans de jeunesse, on avait des relations très asymétriques, beaucoup plus... qui retraçaient beaucoup plus ces relations de pouvoir, en fait. Donc, effectivement, il s'y est aussi intéressé. Donc, on lit moins ses premiers romans, mais il a ce questionnement-là. Et par cette expérience-là, il en vient à montrer que, justement, l'amour ne peut se développer sur des bases saines que lorsque il y a une forme d'égalité...
entre les êtres.
Oui.
Pourquoi Élodie Ripoll a-t-on beaucoup dit de Marivaux qu'il écrivait comme une femme, ou du moins qu'il avait une écriture féminine ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, effectivement, il a été beaucoup critiqué pour son style à l'époque, ce qui nous paraît aujourd'hui assez étonnant parce que son style est encore très vivant lorsqu'on le lit.
Mais c'est quoi un style féminin alors ?
Ah, je sais pas, je pense que c'était un moyen de le discréditer parce qu'il a eu beaucoup de difficultés, par exemple, pour entrer à l'Académie française. Alors qu'il a écrit une trentaine de pièces, qu'il était joué à la Comédie française, au théâtre italien, donc il avait quand même une grande carrière. Et ses romans ont été réédités, donc c'était pas n'importe qui. Mais il y avait une espèce de, je veux pas dire de filtre, mais de distance, parce que c'était, on le jugeait maniéré, donc du coup c'était un peu trop... peut-être cette attention aux détails, aux troubles justement, qui paraissait trop... oui, trop maniéré, trop artificiel. D'ailleurs, détail intéressant, si on regarde l'encyclopédie, donc qui est quand même une somme de connaissances de l'époque, il n'y a aucune mention de Marivaux. Ce qui est quand même étonnant.
Est-il vrai que l'expression « tomber amoureux »,« tomber en amour » vient de Marivaux ? On lit, on entend beaucoup cela, mais j'ai appris que ce n'était pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Alors, en fait, « tomber amoureux », on le trouve dans d'autres pièces. On trouve aussi « tomber en amour », même si ça n'a pas eu la même fortune. Hein, on l'utilise aujourd'hui au Québec pour justement parler de ce surgissement amoureux. Mais en fait, au XVIIIe siècle, ça aurait pu désigner toute forme d'amour, finalement.
Dans le processus de la rencontre que la littérature au XVIIIe siècle permet de représenter, comment est-ce que la rencontre amoureuse est-elle décrite, j'allais dire presque temporellement ? Il y a d'abord l'amour compassion ou l'amour gratitude, il y a ensuite l'amour surprise, il y a enfin l'amour contrôle. Quels sont ces trois types d'amour ? Qu'est-ce que ça raconte de différent à chaque fois ?
Alors, dans la temporalité, c'est vraiment un élément intéressant parce que suivant l'aspect auquel on va s'intéresser, il y a effectivement des choses très importantes à dire. Alors, généralement, on parle de cette rencontre comme un instant. C'est l'instant où les yeux se rencontrent. Après, on va avoir accès à tout cet effet sur les protagonistes.
C'est le grand moment du trouble.
Voilà, le grand moment du trouble. Après, le moment où on réfléchit à ce trouble, mais on ne sait pas forcément qu'on est amoureux. Ou que les personnages sont amoureux, puis à un moment où va venir l'échange, parce qu'il faut bien qu'il y ait une conversation entre les protagonistes, et puis le franchissement, l'abolition de toute distance. Donc ça serait un schéma très structuraliste, finalement, qu'avait proposé Jean Rousset dans les années 80 par rapport à la scène de première vue. Mais il y en a d'autres. On peut effectivement intercaler la prise de conscience, qui est vraiment beaucoup plus importante chez Marivaux, où les personnages combattent vraiment leur amour propre, et cette émotion qu'ils ne connaissent pas et qui s'empare d'eux. Après, ce que vous disiez par rapport au contrôle, ça dépend de quel sens on donne à contrôle. C'est le contrôle de soi-même, de ses émotions, de ce que l'on montre.
C'est ce que vous venez d'expliquer sur Marivaux. Je voulais vous interroger sur un autre terme, une autre expression plutôt, qui, elle, est rentrée dans le dictionnaire de l'Académie en 1798. Cette expression, c'est celle de coup de foudre. Alors là aussi, pourquoi vous vous êtes-vous intéressé au coup de foudre ?
Alors, c'est effectivement un mot qui est souvent associé à la naissance de l'amour et qui est, généralement, lorsqu'on analyse ce topos, parce que c'est un topos, on parle du coup de foudre.
Il faut rappeler ce qu'est un topos, une régularité que l'on retrouve dans la littérature.
Voilà, une situation que l'on va retrouver et le moment du coup de foudre est vraiment celui que l'on trouve le plus, presque. Puis il est très facile à repérer, donc c'est généralement une catégorie assez pratique. Et le fait de le nommer coup de foudre, eh bien, ça implique que c'est un instant décisif et c'est l'affaire d'un instant. Donc il y a un avant et un après et les personnages sont d'emblée au courant de ce qu'ils éprouvent. Hein. C'est des grieux dans Manon Lescaut, il est enflammé d'un coup jusqu'au transport. Donc c'est vraiment cet instant décisif. Et on s'aperçoit lorsqu'on lit les romans de cette époque-là, du 18e au sens large, que finalement c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, voilà, les personnages ne savent pas quel est ce trouble. Donc, creuser un petit peu, relire ces textes permet de voir que c'est beaucoup plus différencié que cela. Notamment, on va y arriver, je pense, à la perspective qui est de plus en plus genrée. Finalement, on a un contrat, un pacte de lecture du coup de foudre avec les protagonistes masculins. Et finalement, on a une représentation assez différente des protagonistes féminins.
Alors justement, je voudrais vous faire entendre un coup de foudre bien connu, bien situé. Il se passe à Notting Hill.
Oh, merde !
Oh, c'est pas vrai !
Mais, pardon, je suis vraiment navré. Excusez-moi, je vais... Attendez.
Oh, attention !
Je suis vraiment navré. J'habite juste en face, là-bas, et j'ai ce qu'il faut. Du savon, de l'eau, vous pourriez nettoyer tout ça chez moi.
Non, merci, je vais récupérer ma voiture, je préfère.
Et j'ai aussi un téléphone. Je suis sûr qu'on peut nettoyer tout ça. Et dans 5 minutes, je vous remets sur le trottoir. En tout bien, tout honneur, je veux dire.
Bon, très bien. Vous habitez juste en face, mais donnez-moi la distance.
Il y a 18 mètres, c'est la maison avec la porte d'entrée bleue.
Extrait de Coup de foudre à Notting Hill, évidemment réalisé par Roger Michel. Elodie Ripoll, est-ce qu'on a là affaire à un coup de foudre typique tel que le dessinait, tel que le décrivait la littérature du XVIIIe siècle ?
Alors c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas faire un anachronisme non plus, mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on a bien deux inconnus qui ne se sont jamais vus, qui vont se croiser, et puis on a cette circonstance de l'accident, qui est très productive au cinéma pour faire se rencontrer des inconnus. Ce qui est un petit peu différent au XVIIIe siècle, puisque généralement c'est arrangé. On a des rencontres qui sont orchestrées par les parents ou par les tuteurs. Mais effectivement, on voit dans cette scène, voilà, les personnages qui sont confrontés l'un à l'autre du premier moment. C'est peut-être un peu court pour voir le coup de foudre, mais il y a la scène juste après. Il y aura un autre rapprochement, un autre échange hors de la rue, donc dans une intimité un peu plus...
Je reviens quand même sur cette scène de coup de foudre à Notting Hill. L'élément de continuité que vous mettez d'ailleurs en exergue dans l'ouvrage que vous avez co-dirigé, c'est peut-être que le personnage masculin est toujours beaucoup plus sensible à ce coup de foudre, qu'il y a quelque chose d'un amour, d'un sentiment amoureux qui surgit beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme.
Oui, enfin après, il faut aussi le voir de façon peut-être un peu plus... Alors je ne veux pas critiquer les protagonistes masculins ou les auteurs qui sont derrière, mais... On peut se poser des questions. Alors, si on repense à Desgrieux, parce que c'est vraiment un personnage fondamental, lorsqu'il est enflammé d'un coup jusqu'au transport, il découvre aussi le désir. Donc, c'est assez compliqué de... voilà, est-ce que c'est vraiment de l'amour, le sentiment amoureux pur, l'âme de Manon qui le séduit, ou est-ce que c'est une attirance physique qui a né à ce moment-là et qu'il prend pour un sentiment amoureux très noble.
Est-ce que dans la littérature du XVIIIe siècle, le sentiment amoureux est parfois décrit comme une maladie, comme une contagion, comme quelque chose qui se répand d'une façon incontrôlée à travers les êtres et la société ?
Ah oui, 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 tout à fait. Alors, le sujet de la maladie d'amour, c'est évidemment plus ancien, mais effectivement, on a toute ces ensembles de métaphores qui vont s'agréger au sentiment amoureux. Alors, on a une contagion des imaginations qui peut... évidemment, si on lit des scènes de première vue, des personnages qui éprouvent du trouble, on va le reconnaître chez soi. Exactement, hein, ça ne serait pas très cathartique du coup, puisqu'on va encourager à l'éprouver soi-même. Et on a évidemment aussi toute cette idée qu'on tombe malade, qu'on va en souffrir, qu'il y aura des symptômes, et peut-être qu'on peut retomber amoureux comme on retombe malade aussi.
Ce que j'allais vous demander, c'était d'ailleurs la question prochaine, c'est est-il possible, selon la littérature du XVIIIe siècle, de retomber amoureux alors qu'on l'a été un temps, qu'on a décidé, ou malgré nous, que nous ne le sommes plus, est-il possible tout simplement de retomber amoureux ?
Alors théoriquement, oui. Après, il ne faut pas oublier l'âge des protagonistes toujours, et puis on vieillissait beaucoup plus vite au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, donc si les personnages tombent amoureux vers 16-17 ans et qu'ils se marient, donc on peut avoir des mariages qui durent, qui sont très brefs parce qu'il y a un décès, donc ça peut arriver. On a beaucoup de personnages de jeunes veuves qui ont peut-être une vingtaine d'années, donc là c'est encore très... Elles peuvent retomber amoureuses, effectivement. Mais je dirais à partir d'un certain âge, vers une quarantaine d'années, ça devient plus rare. Donc retomber amoureux, ça n'est pas à tout âge, c'est vraiment dans un cadre particulier, sans oublier que c'est toujours perçu dans le mariage, normalement. Donc il faut...
Dans la fiction contemporaine, dans l'écriture de romans, l'écriture présente, est-ce que ce sont ces schèmes-là qui reviennent, ceux qui ont été inventés, repensés au XVIIIe siècle, ou une autre rupture a vu le jour depuis lors ?
Alors je ne suis pas spécialiste de la fiction contemporaine, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs encore, puisque on l'a vu, les inconnus qui se rencontrent et qui échangent un premier regard, c'est encore des éléments qui parlent. Et le rapport au temps aussi, qui est à cet instant, qui a un échange. Mais il faudrait des exemples concrets.
Eh bien, peut-être un exemple concret, en tout cas, c'est une chanson intitulée « L'amour, l'amour, l'amour ». Elle est signée Marcel Mouloudji. C'est en 1963.
L'amour. C'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, pas l'amour, dont on parle toujours.
Merci Elodie Ripoll d'être venue dans le premier numéro de Questions du Soir, le premier de l'année. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence au département d'humanité numérique à l'université de Trèves. Vous avez co-dirigé avec Catherine Galouette l'écriture de Tomber en amour, enquête sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle, un ouvrage qui paraîtra aux éditions classiques Garnier dès demain. Merci encore.
Merci.
France Culture, Questions du Soir. Vous écoutez France Culture.
avec Philosophie. Cette semaine, portrait d'Iris Murdoch, philosophe écrivaine.
Géraldine Mosna-Savoie.
Son nom vous fait peut-être penser à celui d'une détective privée britannique et vous n'avez pas tort. Iris Murdoch, à travers ses romans et ses essais, avait une quête, celle de percer le mystère de la vie humaine. Mais comment rendre compte de la diversité de chacun et de nos drames personnels ? Cette semaine, on part en quête d'Iris Murdoch.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture. Saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et pendant la trêve des confiseurs, on profite de prendre de la distance. Voyage ce soir une nouvelle fois, pour la troisième fois cette semaine dans le monde du cinéma avec Nicolas Sédoux. Soit l'histoire d'un homme qui reprend dans les années 70 la plus grande entreprise de production et de distribution française, la Gaumont. À voix nue, c'est une série que je vous propose toute la semaine, troisième épisode. Quentin Laffey, à voix nue.
Nicolas Sédoux, président de Gaumont.
Aujourd'hui, troisième épisode, le temps des salles obscures. Bonjour Nicolas Sédoux.
Bonjour.
On va s'intéresser aujourd'hui à un élément du cinéma qui est peut-être, en tout cas dans le discours, en danger. On va s'intéresser aux salles de cinéma, à l'espace qui permet au cinéma d'être vu d'une façon collective. Et je voulais peut-être, pour commencer, avant de parler du parc de salles français, vous demandez quel est, vous, votre rapport personnel, intime, à la salle de cinéma.
Dans un précédent entretien, je vous ai dit que j'avais terminé la séance entre les rangées de fauteuils. Donc j'ai tout de suite été voir la moquette des cinémas. Et le cinéma, pour moi, c'est l'émotion. J'ai la chance de voir des films seul dans une salle. Mais je trouve que la salle, c'est l'autre. Tout à fait volontairement, de temps en temps, quand je me dis il y a peut-être un événement cinématographique particulier, je cherche la salle la plus populaire de Paris, en général je suis à Paris, et je me souviens de la projection que j'avais vue au Gaumont Place d'Italie pour la sortie de Titanic. La sortie de Titanic, c'était pour moi quand même une drôle d'idée. Puisque Titanic, c'est le pire désastre civil en dehors des catastrophes naturelles. Cameron n'était pas connu comme il est devenu depuis. C'est quand même une idée un peu saugrenue. Et j'assiste à cette séance, c'est un film long, mais on ne s'y ennuie pas. Et là, à la fin du film, ce qui est très rare au cinéma, silence absolu pendant le générique de fin, personne ne bouge. Quand la lumière se fait, les gens restent encore assis quelque temps, particulièrement les jeunes femmes de 5 à 105 ans. Et là, je me dis, ça va pas être un succès, ça va être un triomphe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas comment un commandant trop poussé par un armateur se précipite sur un glaçon, c'est comment une jeune femme qui, on peut facilement s'identifier quand on est une jeune fille, Kate Winslet, et on tombe amoureux de ce comédien qui, à l'époque, n'est pas encore très connu, qui est Leonardo DiCaprio. Et donc, le cinéma, c'est ça, c'est l'émotion. C'est comment on est capable de donner une émotion. Alors, celles et ceux qui vont au cinéma, ils vont d'abord voir un film. Mais ils vont aussi dans un cinéma. Et je pense que c'est ce cinéma qui restitue l'émotion. Alors, ça commence évidemment par la qualité de l'accueil. Il y a une époque, quand même, vous arriviez dans un cinéma, vous aviez votre âge, et on commençait par vous dire « et le pourboire ?» C'est pas ça qui donne absolument envie de revenir dans le même cinéma plus tard. Et la qualité de l'accueil, la qualité de la projection, la qualité du son, et mon frère Jérôme vous dirait « et la qualité des fauteuils ?» Il est installé dans un certain nombre de salles du réseau Pathé, des fauteuils qui sont comme les grands sièges d'avion, eh bien, une partie de la clientèle adore ça. Il y en a d'autres, ils viennent uniquement pour voir le film et peut-être s'intéressent moins au confort de leur dos, mais je pense qu'il faut être très bien accueilli. Je pense que le deuxième élément, qui était une vraie révolution, c'est le fait, dans un même lieu, d'avoir des programmes différents. Ça permet éventuellement à une famille nombreuse de voir des films, voilà. Il y en a deux qui vont voir un film, deux autres qui vont voir l'autre film. Et le troisième élément qui est absolument clé pour moi dans le cinéma, c'est la transmission. On décide d'aller au cinéma. Bon, on décide d'aller au cinéma, on décide d'aller voir tel ou tel film. On en discute avant. Ah, mais il a eu la Palme d'Or, mais la Palme d'Or, on s'en moque, c'est parce qu'on va voir, etc. Bon, vous avez un début de discussion. Et qui dure un certain temps, parce qu'à peu près personne n'habite au-dessus du cinéma. Donc, on se déplace vers le cinéma. On voit le film, et puis là, sur le chemin du retour, ça commence par une phrase très simple, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et puis après ça, il y a pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. Et les parents intelligents, à ce moment-là, comprennent un peu mieux ou un peu moins mal leurs enfants. La télévision, c'est quand même du style, il est 22h, va te coucher. C'est-à-dire qu'on ne commente pas ce qu'on vient de voir. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le cinéma, et donc le cinéma lieu où on a vu un film, est le premier accès à la culture. C'est l'enfant de 5 ans, il n'a pas encore sa culture personnelle. Et tout d'un coup, il est subjugué par un film, ou au contraire, il ne l'aime pas. Et c'est son droit le plus strict. Et à un moment donné, nous parlions dans une émission précédente, cinéma et industrie. Disney avait fait une étude pour savoir pourquoi les enfants aimaient plutôt certains dessins animés et pas d'autres. Et il était ressorti de cette étude que les enfants n'aimaient pas avoir peur. Donc le Disney suivant est un Disney plus lisse. Et c'est un échec. Car effectivement, les enfants avaient dit qu'ils ne voulaient pas avoir peur, mais dans la mesure où le héros et l'héroïne s'en sortaient bien, après leur peur, ils étaient enchantés, on les soulageait parce que le bon triomphe du méchant. C'est simplement que l'enquête n'avait pas été poussée à fond. Et je pense que c'est ça le cinéma. Donc le cinéma, c'est l'émotion, et c'est bien le lieu cinéma qui crée cette émotion. Puis par ailleurs, vous avez quelques cinémas qui ont une touche particulière. Il y a un cinéma qui va rouvrir prochainement à Paris, qui a été à un moment donné, qui a dépendu de Gaumont, c'est La Pagode. Eh bien, évidemment que La Pagode, c'est pas le dernier multisalle du moment, mais c'est simplement un cinéma mythique qui a une jolie histoire orientale derrière lui.
Alors parlons justement... Nicolas Sédoux, de ces lieux mythiques, de ces espaces mythiques. Vous l'avez évoqué dans l'un de nos entretiens précédents, le Gaumont Palace. Lorsque vous arrivez à la tête de Gaumont en 1974, ce Gaumont Palace a été vendu. Racontez-nous, pour ceux qui n'étaient pas nés ou pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qu'était cet endroit emblématique et qu'est-ce qui a mené à la décision de Gaumont de vendre un tel espace.
C'est une histoire improbable. Donc le Gaumont Palace, c'est une création du fondateur de Gaumont, Léon Gaumont, qui rachète le lieu où on parquait les chevaux pendant l'exposition universelle de 1900. Et le Gaumont Palace, tant qu'il a existé, était le plus grand cinéma du monde. On est à Pigalle, place Clichy. Je ne vais pas dire qui l'a remplacé, parce que c'est vraiment d'une tristesse absolue. Un hôtel et un supermarché, voilà. 6000 places, et c'est là qu'on voit qu'ils avaient tout compris, le prix des places au Gaumont Palace va de 1 à 40. C'est-à-dire que vous pouvez être debout dans le promenoir où vous avez le droit de fumer, et vous pouvez avoir votre loge comme à l'opéra. Le promenoir, c'est 50 centimes, le fauteuil dans la loge, c'est 20 francs. Que vous avez un orchestre symphonique de 100 musiciens, que vous avez des attractions, et donc le film lui-même, disons-le, il est bien entouré. Après la guerre, l'orchestre va être remplacé par un orgue, le jeu d'orgue descendant, c'est-à-dire qu'il est monté sur des vérins hydrauliques, et l'orgue, c'est un film à lui-même, le jeu d'orgue monte et descend dans les sous-sols. Alors, le Gaumont Palace attire 2,5 millions de spectateurs, disons, après la guerre jusque dans les années 57, et sa fréquentation est divisée par 8. Donc, les raisons économiques de sa vente sont simplement avec le recul. Alors, je pense d'abord qu'aujourd'hui, le Gaumont Palace serait classé, peut-être que ça ne deviendrait rien du tout, mais en tout cas, on n'aurait sûrement pas le droit de le démolir. En tout cas, je suis heureux d'avoir pas eu à prendre la décision. Et évidemment que la seule bonne décision était d'en faire le plus beau multisalle du monde, probablement pouvant y maintenir d'ailleurs les bureaux de Gaumont, parce que c'était un tel volume qu'il devait y avoir la place pour l'ensemble. Parce que Gaumont, en quittant le Gaumont Palace, donc était un cinéma, mais ses bureaux, a également, pour des raisons qui me semblent absolument incompréhensibles, abandonné toutes ses archives. Et ici, dans cette salle dont vous parliez lors de la première émission, eh bien, il y a une partie des boiseries qui occupait le bureau de Léon Gaumont. Voilà. Et la petite pomme de pin que vous voyez, ça pourrait être une marguerite. Eh bien, non, il avait choisi une pomme de pin. C'était ses bureaux. Donc, un mythe. Et il faut être très attentif quand on a la chance d'avoir un ensemble comme cela, avant de décider de s'en séparer. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient pris la bonne décision.
Racontez-nous, Nicolas Sédoux, décrivez-nous même le plus concrètement possible, à quoi ressemblait le parc de salles de cinéma français il y a exactement 50 ans. On est en 2024 aujourd'hui, vous reprenez Gaumont en 1974. À quoi ressemble ce parc? De quoi les salles françaises étaient faites?
Les salles françaises sont pour l'essentiel encore des grandes salles de cinéma qui sont même le samedi après-midi plutôt aux trois quarts vides, avec une fréquentation qui est à peu près stabilisée. Mais mon prédécesseur me dit le secteur est en crise puisque cet immeuble était trop petit pour accueillir à l'époque tous les salariés de Gaumont. Alain Poiret n'était pas ici, mais ça c'était sa volonté, et l'informatique n'était pas ici. Que nous sommes à une époque où le prix de place est bloqué. Il faudra attendre que Raymond Barre soit Premier ministre pour que le cinéma ait la liberté des prix.
Qu'est-ce que ça veut dire le prix bloqué? Malgré l'inflation, on ne peut pas modifier le prix
Il y a un prix maximum qui est fixé avec... au bout d'une discussion avec les pouvoirs publics qui a lieu à peu près chaque année, et le président de la Fédération des cinémas français va négocier. Alors il y a 12 exceptions, donc une par mois qui est tolérée pour un film d'une longueur particulière ou oui. Le prix Pupin était fixé également par décret. Donc on est dans une situation où le cinéma, les seuls complexes qui se créent, j'utilise à dessein ce mot-là, sont des complexes à réessai. L'inventeur du complexe en France, c'est Boris Gourevitch, qui d'ailleurs s'inspire, c'est assez inattendu, mais c'est comme ça, de son homologue américain, Don Rougoff. Premier complexe américain, c'est donc Don Rougoff à New York en 1962. Et le premier complexe français, c'est 1966. Et les trois premiers complexes parisiens... Cinévox, Saint-Lazare et compagnie, c'est donc avant les années 70. Chez Gaumont, il doit y en avoir un qui apparaît à une salle coupée en deux en 1971. Et je pense que en 1974, le parc doit compter 4500 écrans. Il ne doit pas y avoir 100 écrans qui soient des complexes. Voilà.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, Nicolas Sédoux, en arrivant à la tête de Gaumont, pour transformer ce parc, pour le moderniser et pour apporter d'autres formes aux salles de cinéma?
Alors, je ne sais pas si c'est une chance ou... Enfin, c'est ainsi. Je rentre chez Gaumont, j'attrape une hépatite. Pendant un mois, je suis donc chez moi, couché. Ça me permet de me pencher sur tous les chiffres. Et je suis fasciné de voir qu'on garde des cinémas qui perdent de l'argent. Il n'y a que cinéma qui perd de l'argent. Soit on peut le transformer, parce qu'il est assez grand, soit on peut rien en faire, il faut le vendre. Et quand je vous ai parlé du Bosquet tout à l'heure, je dis, écoutez, cette salle, elle est intransformable. Mais vous rendez compte, on ne vend pas de salle. Mais je dis, pourquoi on ne vend pas de salle? Bien sûr qu'on voit une salle. Et puis on achète une autre à côté pour en faire une salle plus belle, plus spacieuse, plus avenante, avec une meilleure projection, que sais-je. Alors là, disons-le, c'est une réflexion d'entrepreneur. Autant décider de faire un film, voilà, vous aimez un tableau, vous n'aimez pas un tableau, vous aimez un film, vous n'aimez pas un film, c'est totalement culturel. Autant un cinéma, c'est totalement objectif. Hein. Simplement, il ne faut pas se tromper dans ses prévisions. Mais là, vous avez déjà un certain nombre de cinémas qui perdent de l'argent. Vous en avez d'autres qui pourraient être transformés, puisque le Convention, je te citais à un moment donné, j'arrive, il a 4 salles. On a commencé par en faire une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Les chiffres sont exponentiels. C'est-à-dire que d'un cinéma qui attirait quelques dizaines de milliers de spectateurs, on arrive à quelques centaines de milliers. Et là, Beaumont n'en a pas tiré les conséquences. C'est-à-dire que, voilà, nos collègues en général, quand ils ont une grande salle, transforment leur salle en 2 salles. C'est Pathé, le premier qui transforme les grandes salles, qui sont le Vépler et le Marignan, qui vont devenir chacun 2 grandes salles, parce qu'on estime qu'une salle qui a moins de 500 fauteuils n'est plus une grande salle. Ce qui compte d'ailleurs, c'est pas le nombre de fauteuils, c'est d'avoir un grand écran. Or, l'écran, chez vous, vous pouvez avoir un écran qui descend éventuellement jusqu'au plancher. Dans une salle de cinéma, il faut que quelqu'un debout devant l'écran ne gêne pas la vision. Donc déjà, vous avez 2 mètres qui sont bloqués par rapport au sol, et ensuite, avez-vous un volume suffisant pour faire un très grand écran. En un mot, la taille de l'écran, elle ne dépend pas de la largeur de la salle, elle dépend de la hauteur de son plafond. Bon. Et si vous devez faire une salle dans un champ de betteraves, il n'y a pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour pouvoir dessiner des écrans superbes et des fauteuils bien espacés. Si en revanche vous êtes centre-ville, c'est d'une abominable complexité, en sachant que vous devez avoir, pour une salle de moins de 100 places, 2 issues, une entrée et une sortie, et chaque fois que vous rajoutez 100 places supplémentaires, une issue supplémentaire. Bon. Et heureusement que ça existe, parce que malheureusement, j'ai vécu une période où il y avait des attentats dans les salles de cinéma. Les plus anciens se souviennent de l'attentat de la galerie Poinchot, c'était au moment où Jacques Chirac venait d'être élu. Il y avait une bombe posée sur le plafond. Coup de chance, c'était l'après-midi, donc il n'y avait personne dans les premiers rangs, mais il y avait des issues de secours pour évacuer les gens sans problème. Donc vous avez des règles, et le sujet, et les Parisiens le voient bien, c'est que en centre-ville, avoir des cinémas de très grande qualité au standard de 2024, eh bien, c'est plus compliqué que de construire en pleine Beauce.
Vous avez, par le truchement de Gaumont, développé le complexe, le multisalle, partout en France, hein, il faut bien le dire, dans des villes moyennes nombreuses. On a beaucoup reproché à ces espaces-là, à ces salles-là, d'être d'abord et avant tout le lieu de diffusion des blockbusters. Alors, quelle critique vous apportez à cette critique ?
Je crois l'avoir dit, il y a un ministre qui a dit un jour « les multiplexes porte-avions du cinéma américain ». C'est une erreur absolue. Bon, un certain nombre de personnes étaient très inquiètes, quand nous sommes sortis du Covid, de penser que les films français allaient se bousculer, que les grands films américains allaient accaparer toute l'audience. Et bon. Et on s'aperçoit, le premier semestre de cette année est révélateur à cet égard, que lorsque les grands films populaires américains ne sont pas là, il y a tout simplement moins de spectateurs dans les salles. Que le cinéma, c'est un ensemble, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, la France est le pays qui offre, alors d'abord le pays où le cinéma national en Europe a le plus fort pourcentage, et le pays qui offre aux cinématographies du reste du monde la plus grande place, de l'ordre de 10 à 15%. En fait, c'est considérable. Elle est à peu près nulle dans tous les autres pays européens, Allemagne, Italie, Espagne, à peu près nulle. Et que celui qui veut voir un blockbuster américain, c'est en général pas le même que celui qui veut voir un film très pointu, et si c'est le même, c'est pas le même jour avec les mêmes amis ou la même famille. Voilà. je dis pas qu'il change de famille, mais s'il va avec ses enfants, il va pas voir les mêmes films que s'il emmène sa tante ou sa grand-mère. Donc, je crois que c'est une grave erreur de penser que plus il y a de salles, plus elles passent le même film. Et en plus, il y a une réglementation qui s'y oppose. Mais je citais, c'est un concurrent. La concurrence, ça émoustille et ça permet à chacun d'être meilleur. Le cinéma qui a la plus grande diversité en France, c'est celui qui attire le plus de spectateurs, c'est l'UGC et les Halles. Voilà, et c'est comme si vous lisez énormément, vous lisez pas toujours le même auteur, vous commencez par les auteurs relativement faciles, c'est Hugo qui conduit à Proust, c'est pas l'inverse. Et je dirais que c'est Babar qui conduit à Tintin, Tintin qui conduit à Hugo, et Hugo qui conduit à Proust. Donc, le fait que côte à côte, ces films soient diffusés et exposés, permet d'un côté au cinéma d'avoir une clientèle qui n'est pas toujours la même. Voilà, les cinémas du quartier latin mono-écran, ils ont toujours le même type de clientèle. En revanche, un multisalle, où qu'il soit, il a des clientèles différentes qui se côtoient et qui s'enrichissent les unes des autres. Donc je crois que c'était une grave erreur d'analyse et que si aujourd'hui nous avons probablement le meilleur parc de salles du monde, il y a peut-être des exceptions, mais globalement, le territoire français est remarquablement couvert avec une variété de responsables de cinéma qui fait que les différents types de cinématographie sont également bien couverts. Alors, après ça, est-ce que ça pourrait être encore mieux ? La perfection n'est pas du domaine humain. Mais je dis, c'est très bien.
Qu'est-ce que le numérique a changé à la conception des salles, au travail au sein des salles et peut-être même à la façon de structurer ce maillage territorial que vous venez d'évoquer?
Alors, la France est le pays qui a basculé le plus vite dans le numérique. Ça fait hors de ma part l'année charnière, c'est 2011. Nous allons sortir deux films avec à peu près le même nombre de copies, l'un au mois de mai, l'autre au mois de novembre. Au mois de mai, un tiers des supports est numérique. Au mois de novembre, deux tiers des supports est numérique. Gaumont sort chaque année une petite dizaine de films, 8, 9, 10, parfois 12, mais disons une dizaine. En 2011, nous ne tournons aucun film sur support numérique, en 2012 tous. Donc, le bouleversement est d'une rapidité extraordinaire et le parc de salles français va s'adapter de façon extraordinaire. D'abord, ça a été, pour certains, dramatique. Les laboratoires qui vivaient fondamentalement du tirage des copies, eh bien, la plupart d'entre eux ont fermé. Kodak a disparu. Sur le plan technologique, un bouleversement absolu qui a entraîné des licenciements importants. Moi, je me souviens d'une époque où de grands directeurs de la photo disaient « Jamais je ne tournerai en numérique. » Il faudrait bien savoir qui tourne en photochimique aujourd'hui. Bon. Donc là aussi, nous organisons à côté, à frontière d'ici les Moulineaux, nous avons Gaumont Aqua Boulevard, et nous invitons des journalistes pour présenter dans une salle une projection numérique, dans l'autre une projection analogique. Un sur deux se trompait. Hein? Alors, un bouleversement absolu en ce qui concerne le tournage, les caméras beaucoup plus légères. Ce qui est lourd sur les caméras, sont les objectifs, là, garder éventuellement les mêmes objectifs, mais et surtout une transformation totale pour le réalisateur et le directeur de la photo. Le directeur de la photo, il peut faire ses réglages avant, pendant et après. Et quant au réalisateur, il voit immédiatement ce qu'il a tourné. C'est-à-dire que il y avait cette expression classique, et on en fait encore une petite par sécurité. Pas besoin de faire une par sécurité. On sait bien que la pellicule n'a pas été rayée ou on sait qu'il y avait un grain de sable sur l'objectif. Pour le montage, vous avez votre ordinateur, vous pouvez faire ça aujourd'hui, les sous-sols de Gaumont, il y a des films qui sont en train de s'y monter, le réalisateur est là avec le monteur ou la monteuse, donc des avantages considérables. Et le dernier point, c'est la restauration. Aujourd'hui, grâce au numérique, on parle beaucoup, et à juste titre, de la restauration du Napoléon d'Abelgance. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce au numérique, nous arrivons à gommer la plupart des voilà des rayures qui étaient sur la pellicule, etc. Et pour le son, alors là, il y a des discussions de techniciens qui n'en finissent pas. Ici, nous avons un ingénieur du son. Comment Jean Renoir aurait-il enregistré? Comment Marcel Pagnol aurait-il enregistré? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité de l'enregistrement est incomparable avec celle de l'immédiate avant-guerre ou de l'immédiate après-guerre. Et par ailleurs, les haut-parleurs sont également incomparables, ce qui fait que les gringrins qu'on n'entendait pas à l'époque, on les entend aujourd'hui. Bon, donc faisons-nous une restauration aux normes 2024 ou faisons-nous une restauration aux normes 1937?
C'est un peu la même question qui se pose pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Sauf que l'avantage que nous avons, c'est que aujourd'hui, les architectes se sentent liés par la charte d'Athènes, qui me semble être une ineptie absolue. C'est-à-dire qu'on décide que si un monument a été détruit plus d'un certain temps, il doit rester détruit. Qu'est-ce que c'est que cette sottise? La flèche de l'abbaye de Saint-Denis, elle a été déposée. Elle était déposée parce qu'elle risquait de s'écrouler. Bon, il est évident qu'aucun vivant n'a vu la flèche de Saint-Denis. C'est pas parce qu'on ne l'a pas vue pendant 50 ans ou 100 ans, parce qu'on n'a pas les moyens de la remettre, qu'il ne faut pas la remettre. La cathédrale de Paris, c'est différent parce que on avait tous la flèche de Viollet-le-Duc. Et c'est vrai que si on avait eu une flèche moderne, d'abord, vous imaginez les discussions, parce que quand vous avez affaire à un lieu religieux, mais qui est très particulier en France, puisque toutes les cathédrales appartiennent à l'État. Bon, mais il n'en demeure pas moins que ça reste des édifices religieux. Donc, sur le cinéma, moi je pense, je donne mon avis, que si Jean Renoir, Marcel Pagnol et compagnie avaient connu des moyens techniques supérieurs, ils auraient eu la meilleure musique possible. Je pense que la restauration musicale doit être aux normes 2024, et non pas aux normes 1934.
Pour boucler la boucle sur les salles, Nicolas Sédoux, vous avez pris, je l'imagine, une décision difficile, puisque vous en avez fermé une qui se tenait sur les Champs-Élysées, qui avait 90 ans d'existence. Le nom de cette salle, c'était le Gaumont-Marignan. Pourquoi avoir choisi de la fermer et qu'est-ce que ça représentait pour vous?
Alors d'abord, c'est pas tout à fait moi qui ai décidé de la fermer, puisque je n'étais plus aux commandes quand elle a été fermée. La raison d'une simplicité absolue. Vous avez un propriétaire qui est très content comme ça, que pour avoir un multisalle de qualité aux Champs-Élysées, on peut pas imaginer qu'on n'ait pas sur les Champs-Élysées un cinéma d'une très très grande qualité. Eh bien, il fallait évidemment casser des murs. Il fallait évidemment obtenir l'accord, non pas d'un propriétaire, mais de plusieurs propriétaires. Et vous avez des gens qui vous expliquent qu'ils ont hérité de cela comme ça et qu'ils sont très contents comme ça. Et donc, malheureusement, ça ne sera plus un cinéma. Moi, j'ai vécu la transformation du Gaumont-Montparnasse, où nous avions un cinéma qui était l'ancien Paramount qui donnait sur le boulevard Montparnasse et l'autre qui était sur la petite rue qui part à droite. Le problème sont les issues de secours. Toujours pareil, il faut trouver des issues de secours, et les issues de secours, ça peut quand même pas être des escaliers en colimaçon trop étroits. Ben, on a eu la chance d'avoir pour l'essentiel des copropriétaires très compréhensifs, et je me souviens d'ailleurs lors de l'inauguration, il y en a un qui a été insupportable. Mais ceux qui étaient compréhensifs et intelligents, parce que dans le meilleur des cas, vous les embêtez pendant 2 ans avec leurs travaux. C'est-à-dire qu'après, quand les travaux seront finis, il y aura aucune moins-value dans leur immeuble ou quoi que ce soit. Mais pendant les travaux, ils vont les subir. Et donc, j'avais décidé que on les inviterait pendant un an, gracieusement, parce que il y en a un autre, c'était quasiment un maître chanteur.
Merci Nicolas Sédoux.
Merci
de cette discussion et on se retrouve demain. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, Quentin l'a fait avec Nicolas Sédoux, réalisation Manouchak Fachaï, coordination Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil. Vous pouvez retrouver cette série et toutes les émissions d'À Voix Nue sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.
Vous écoutez France Culture.
France Culture invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Toruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Toruido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Chaque matin, nous commençons la journée ensemble avec nos invités, nos chroniqueurs, des